À la Grande-Bretagne, bien sûr, ce matin avec vous. On va essayer bien de comprendre l'origine de ce formidable pouvoir d'attraction britannique. C'est le thème de votre œil ce matin.
Mais pour comprendre, François, si on revenait d'aller 100 ans en arrière, imaginez, nous sommes en 1922. Le rayonnement britannique est alors impressionnant. Un empire colonial qui s'étend sur près de 30 millions de kilomètres carrés, c'est 1000 fois la Belgique. Ou plus explicite encore, le quart de la population mondiale est alors gouverné par Londres. Le Royaume-Uni est encore la première puissance mondiale, plus pour très longtemps en fait. Aujourd'hui, il ne reste par le monde que quelques confettis comme les Bermudes, les Malouines, Sainte-Hélène, Gibraltar. Bien sûr, le Royaume-Uni reste une puissance importante au plan politique, au plan militaire. Elle est dans le petit club des pays détenant l'arme atomique ou économique avec la place financière de la City, mais rien à voir avec ce qu'elle fut lorsqu'elle exaltait sa puissance et celle de la Royal Navy et quand les Anglais chantaient ceci.
Bretagne qui régit les flots. Les Britanniques ne seront jamais des esclaves. Voilà pour les paroles que l'on vient d'entendre. Ça, c'est le passé, Pierre. Aujourd'hui, où donc réside la puissance britannique?
Eh bien, avez-vous déjà entendu parler, François, du soft power? Alors, vous savez, c'est symptomatique d'ailleurs que je dois employer un anglicisme pour évoquer cette notion qui se traduit littéralement en français par pouvoir doux. En clair, il s'agit d'une manière douce d'exercer une influence sur le monde, différente donc du hard power. Hard power, le Royaume-Uni l'avait donc autrefois, lorsqu'elle était la première puissance mondiale avec sa marine, grâce à la révolution industrielle. Bref, cette supériorité que nous venons d'évoquer. Eh bien, aujourd'hui, le Royaume-Uni ne peut plus concurrencer les grandes puissances du monde, que sont la Chine ou les États-Unis, que par le soft power et ses grands atouts.
Oui, et je devine, Pierre, que la royauté britannique fait partie de ce soft power. Elle renforce l'attractivité du Royaume-Uni dans le monde.
Évidemment. Alors, bien sûr, tout cela est en partie lié au passé, parce qu'après tout, le prestige britannique découle du rôle prépondérant qu'a eu le Royaume-Uni dans le monde. D'ailleurs, comme par hasard, c'est dans le siècle de sa puissance, le 19e, que l'image de la couronne britannique avec la reine Victoria va s'améliorer sensiblement. C'est d'ailleurs à ce moment-là d'ailleurs que son rôle est codifié soigneusement et Elisabeth II s'y est d'ailleurs conformée. Être au-dessus de la mêlée, cela lui permet de ne pas pâtir de l'impopularité d'un Premier ministre, par exemple. Et au plan mondial, il est certain que la reine, particulièrement Elisabeth II, est un des ingrédients de l'important soft power britannique dans le monde.
Bon, ingrédient important donc que cette reine pour le soft power britannique. Vous avez d'autres exemples qui ont alimenté le soft power britannique
Bien sûr, en voici un, édifiant, il date de 1964. Oh yeah. Vous avez reconnu bien sûr
les Beatles, évidemment, oui.
I want to hold your hand, c'est avec ce titre que les Beatles se hissent au top des hits parades américains juste avant leur tournée triomphale aux États-Unis. Le magazine américain Life écrit alors ceci. En 1776, la Grande-Bretagne a perdu ses colonies américaines, les Beatles les ont récupérées la semaine dernière. Voilà qui illustre l'ampleur de ce qu'on appellera outre-Atlantique la British Invasion des années 60 et 70. Après les Beatles, il y aura les Stones, Bowie, Queen et tant d'autres. Et encore aujourd'hui, au plan musical, eh bien, le Royaume-Uni occupe une place sans commune mesure avec son pouvoir politique ou économique dans le monde. Vous voyez, le soft power s'exerce évidemment au plan culturel. Si en littérature, il ne fallait citer qu'un nom, eh bien, on illustrera bien sûr l'extraordinaire rayonnement britannique dans le monde avec J.K. Rowling, l'auteur de ce Harry Potter, tellement britannique et tellement universel tout à la fois. C'est un autre exemple du soft power à la sauce anglaise. On pourrait dire aussi le sport, parce qu'après tout, ils sont presque tous nés outre-Manche, le football, le rugby, le golf.
Bon, si je puis me permettre, Pierre, le Royaume-Uni n'est pas le seul pays à rayonner au plan mondial grâce à ce fameux soft power, le sport, la musique, etc.
Vous pouvez vous permettre, François, parce que c'est vrai, non, on pourrait citer les États-Unis, bien sûr, avec Hollywood et le hamburger, ou bien l'Italie, avec ses pâtes, ses pizzas et sa dolce vita, ou bien sûr la France, associée à la grande culture, l'élégance, le raffinement culinaire. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle Paris peut rivaliser avec Londres comme ville la plus touristique du monde. Mais en termes de soft power, les Anglais dépassent tous leurs rivaux sur un point. Vous avez deviné lequel ? Eh bien, l'anglais, leur langue évidemment, omniprésente dans le monde, qui est né en Angleterre, et au point d'ailleurs qu'après le Brexit, c'est toujours l'anglais qu'on utilise dans les couloirs de la Commission et du Conseil européen, alors que c'est désormais la langue natale de seulement l'Irlande et Malte, soit 1,2% des habitants de l'Union européenne. En clair, le soft power britannique, il est tellement fort qu'il n'y a même pas besoin d'une présence pour qu'il subsiste.
Et puis cet accent britannique, c'est quand même une des plus belles musiques au monde aussi, Pierre Marley.
Absolument.
Merci pour cet œil dans le rétro. On sera